Et il y avait aussi un personnage qui est devenu célèbre. C'est M. l'abbé Lemire. Je me souviens que M. Crémond nous racontait qu'il avait été son élève. Et son élève, au temps où il était professeur de rhétorique, car il est bon de savoir que la rhétorique n'était pas un mot, mais une réalité. La rhétorique, c'était évidemment la science de la composition française. Et on faisait du discours français, s'il vous plaît, en classe de rhétorique. On donnait aux élèves des sujets, des grands sujets du jour, la Pologne, par exemple, à ce temps-là, qui était déjà martyr, et puis, ou l'Irlande, qui aussi tendait vers son indépendance et qui souffrait de la pression du gouvernement anglais, ou bien encore O'Connell, des grands noms, des grandes causes, et il fallait faire un grand discours là-dessus. Alors, M. Lemire, en classe, n'est-ce pas, rendait compte aux élèves de leur discours, et il leur disait ensuite, voici comment vous auriez pu faire. Et souvent, il partait lui-même dans un discours. Et M. Crémond nous disait, nous racontait, qu'à ce moment-là, un élève qui avait la confiance de M. Lemire était chargé de sténographier les beaux élans, les envolées les plus remarquables, les plus éloquentes, les plus poétiques ou les plus évocatrices. Et M. Lemire se servait de ça par la suite. On sentait naître chez lui la vocation d'un homme politique. C'est en 92 que M. Lemire s'est lancé dans la politique avec une permission de son évêque dont tout le monde discutait encore quand j'étais professeur au séminaire. C'est intéressant car la vie de M. Lemire devrait être écrite et elle n'est pas écrite en raison de certaines difficultés à présenter la façon dont les choses se sont déroulées, pas seulement chez lui mais aussi autour de lui. Et alors il a demandé l'autorisation à l'archevêché de Cambrai de se présenter, on lui a pas refusé. Mais on lui a dit, si vous vous présentez à la députation, si vous êtes député, il faudra renoncer au poste que vous occupez dans la maison. Je me souviens avoir entendu raconter que quand il a reçu cette réponse, il a dit à ses collègues, eh, j'ai la permission. Et certains qui n'étaient pas partisans de la chose lui ont dit, mais non, vous êtes sanctionné. Et on est toujours resté sur ce point d'interrogation. Était-ce une permission, était-ce une sanction? C'était en tout cas la porte ouverte. Et il est parti par cette porte ouverte. Il y aurait à écrire, c'est pas l'histoire du séminaire, mais ça accrochait de près au séminaire, comment il a fait campagne, une campagne qui a été un triomphe pour lui la première fois, je crois, c'est en 92, monsieur Houtz. En 92. En 93. 4 ou 93. Oui, il y a encore des témoins.
Excusez-moi, malade. J'ai oublié le lundi matin. J'entends mon père qui dit, c'est un curé.
Voilà. Voilà l'écho d'une élection. Alors, vous ne pouvez pas en avoir de meilleur. Hein. Donc, 4 août 93, la nuit du 4 août, voyez-vous. Et ça correspond, n'est pas ça significatif. J'espère que vous connaissez encore assez d'histoire pour savoir ce que c'est que la nuit du 4 août. Eh bien, donc, élection à ce moment-là. L'abbé Lemire a été candidat contre un ancien conservateur du pays. Il s'est présenté comme celui qui représentait le petit peuple flamand. Et il faut reconnaître, je crois, d'après ce que j'ai pu recueillir depuis, il faut reconnaître que véritablement il personnifiait le pays. Il était l'homme du pays, il connaissait très bien la langue, le flamand, en un temps où tout le monde le parlait dans la région ici, et il était en contact avec les habitants. Par la suite, M. Lemire a été emporté dans des circonstances qui avait dépassé ses prévisions. Quand en 93 il a été élu, le gouvernement n'était pas un gouvernement clérical, mais la politique du gouvernement n'avait pas encore pris l'allure anticléricale qu'elle a prise au début du siècle. Il est utile de savoir que vers 1905, par exemple, il y avait une lutte ouverte en France entre l'Église et l'État. Et j'ai vu moi-même, étant bambin à ce temps-là, crocheter les portes d'Église. Enfoncer à coups de hache les portes d'église pour faire l'inventaire. C'est une chose qui n'est peut-être pas mauvais de redire pour qu'on comprenne un peu l'état d'esprit de ceux qui ont vécu de ce temps-là et qui, évidemment, n'est plus tout à fait en correspondance avec l'épanouissement qu'on a aujourd'hui. Eh bien, oui, M. Lemire a été emporté là-dedans et dans cette affaire, il a eu pas mal de difficultés et même des difficultés avec l'administration ecclésiastique. En 1914, quand la guerre a éclaté, il était sanctionné. Il ne pouvait plus dire la messe, il communiait cependant encore, il était interdit. Et ses partisans avaient été soumis à des sanctions ecclésiastiques aussi en assez grand nombre. La guerre est arrivée là-dessus et la guerre a un peu apaisé les choses. Je passe très rapidement parce qu'il faudrait toute une conférence, et même plus une conférence, un volume pour raconter dans détail l'affaire. Et je vous disais que c'est encore maintenant assez difficile en raison de certaines choses qui n'ont pas toujours été très droites dans les procédés qu'on a eus avec lui. Quand je suis arrivé à Hazebrouck en 23, M. Lemire était encore député et maire d'Hazebrouck. C'est en 1928 que le bon Dieu l'a rappelé à lui. Il est intéressant, à propos du séminaire, d'indiquer qu'il a été un professeur, et un professeur qui a fait la réputation du séminaire. Il a été aussi un grand ami de l'enseignement libre. Quand il a écrit la vie de M. Dehaene, il l'écrivait avec un souffle qui est là dans cette biographie et qui manifeste d'une façon très nette son attachement profond à l'enseignement libre. Il est à l'origine de Saint-Jacques. Il est un de ceux qui ont fondé le collège Saint-Jacques. Et après cela, chose curieuse, il est à l'origine du relèvement du Collège des Flandres. Mais, chose curieuse aussi, quand il a relevé le Collège des Flandres, il était maire à Hazebrouck, et c'était son devoir de donner à tous les habitants d'Hazebrouck, quel que soit leur comportement chrétien ou leurs opinions, de donner la possibilité d'avoir une éducation selon leurs désirs. Mais chose très curieuse, c'est que, alors que l'enseignement laïque supprimait tout emblème religieux. Dans son collège, jusqu'à sa mort en 1928, le crucifix se trouvait au parloir, au réfectoire et au dortoir. Et quand l'inspecteur officiel passait, celui qui était l'inspecteur à l'île à ce moment-là, était un notoire anticlérical, montrait au maire ses Christs en disant « faudra faire disparaître ça ». L'autre lui répondait « jamais, monsieur ». Parce que les élèves qui sont ici sont des enfants qui, chez eux, ont partout le crucifix. Dans la salle de famille, dans la petite salle de réception de la maison et dans leur chambre. Et si le Christ n'était pas là, il n'y viendrait plus. Quand M. Lemire est mort, le Christ a disparu.